c'est important. Donc, bienvenue à cette dernière table ronde. Le nom, la poésie, on a beaucoup parlé du nom déjà. Donc, avec vous, on va encore plus s'y attarder peut-être à partir de ce regard poétique que vous pouvez porter. Je dis regard poétique parce que les invités à cette table ronde, Philippe Beck et Marcos Siscar, sont deux poètes, deux écrivains, mais aussi deux universitaires, et que donc il y a cette double position peut-être, et nous a rejoint à cette table ronde sur la proposition généreuse de Philippe Beck, Frédéric Martin-Scherer, pour avoir ce temps d'échange peut-être que nous n'avons pas pu avoir à la suite de votre intervention, et puis peut-être, probablement, parce que Philippe Beck et Marcos Siscar pourront réagir à votre vision poétique de Genet à partir d'Homère. Un petit mot pour présenter les intervenants. Marcos Siscar, qui nous vient du Brésil, qui est professeur à l'université de Campinas, traducteur aussi. Vos poèmes sont publiés en France aux éditions Le Temps qu'il fait, en particulier Le Rapte des silences, paru en 2007. Et vos travaux universitaires qui portent sur Paul Valéry, sur la poésie brésilienne, sur Jacques Derrida, dont vous avez été l'élève, il faut le souligner, comme Philippe Beck et comme Adrien Laroche aussi. Et je pense que ce lien avec Derrida, vous allez justement nous le commenter, et vous allez vous appuyer sur la lecture que Derrida fait de Genet, d'Anglade, pour évoquer le Genet poète et vous attarder et revenir sur cette image de l'orphelin aussi qu'on a plusieurs fois évoqué au cours de ces rencontres. Philippe Beck, vous êtes docteur en philosophie, vous avez effectué vos travaux aussi sous la direction de Derrida, la thèse portant sur l'histoire et l'imaginaire. Vous êtes maître de conférence à Nantes, vous avez publié un certain nombre de textes poétiques, dont Chant populaire chez Flammarion en 2007 et Lire dur, qu'on peut trouver ici, je l'ai vu, aux éditions Nous en 2007. Vous avez fondé et participé à plusieurs revues et vous attachez à tout ce qui distingue la littérature de la philosophie. Vous cherchez à le mettre en avant, particulièrement dans vos cours qui portent sur l'esthétique, ce qui nous relie aussi à ce qui a été évoqué précédemment. Et vous intéressez aussi, alors on n'a pas parlé de musique, je crois, avec Genet, mais vous intéressez aussi à la création musicale contemporaine. Peut-être que quelque part, il y aurait un écho aussi à faire, s'il existe, avec l'œuvre de Genet. Votre intervention à vous, juste en quelques mots, part du condamné à mort, pour montrer qu'il y a une tension, mais vous y viendrez évidemment tout à l'heure plus en détail, entre la phrase et le mot chez Genet en général, qui se double d'une tension entre le mot et le nom. Donc, on est tout à fait dans le thème de cette table ronde. Je vais laisser la parole à Marcos Siscar pour donc cette lecture que vous faites de Genet à partir de la lecture qu'en fait Derrida.
Merci Pascal. Et c'est en fait sur la lecture de Derrida que je vais parler, et moins sur Genet ou la poésie de Genet. Je n'aurais pas de conditions de faire ça, malheureusement. Je ne suis pas un généticien. Et c'est pour ça, entre autres raisons, que je remercie à Adrien Laroche l'opportunité d'être là, c'est-à-dire de retrouver un travail que j'avais fait sur Derrida, de retrouver aussi la langue française, dont j'étais un peu éloigné il y a quelques temps. Et finalement, pour pouvoir vous écouter, écouter les génétiens et prendre contact avec une œuvre que j'ai les plus grandes envies de connaître mieux. Et donc, je crois que l'invitation avait rapport donc à ce travail que j'avais fait comme thèse de doctorat, qui a été soutenue en 95, pardon, donc ça fait 15 ans. C'est un travail donc que j'ai fait sur Derrida et qui contenait une partie sur les livres Glas, qui concentre la lecture que Derrida fait de Jean Genet. Donc c'est un livre, vous connaissez peut-être, c'est on ne le dit pas souvent, mais c'est un livre sur Genet et sur Hegel, c'est-à-dire un livre qui fait une double lecture dans de deux colonnes différentes, mises vis-à-vis l'une de l'autre. Donc à gauche, c'est un livre assez grand, carré. À gauche, on lit un texte sur Hegel, et à droite, un texte sur Genet. Et ces deux colonnes, elles sont fréquemment, à chaque pas, rompues elles-mêmes dans d'autres trous, pourrait-on dire, des insertions de textes, de fragments de colonnes. Donc je vais essayer, au fait, de reprendre un fil de cette lecture, un ou deux points de la lecture que fait Derrida de Genet, en essayant de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle nous arrive encore. À ce propos, je me demandais, en effet, en réalisant des lignes que j'avais écrites il y a beaucoup d'années, s'il ne fallait pas reposer à nouveau frais l'interprétation derridienne de Genet d'une façon qui puisse donner raison à ces 26 années qui nous séparent de la publication de Glas, livre où Derrida dispose sa lecture de Genet, donc, comme je l'ai dit, dans un vis-à-vis avec un essai sur Hegel. Donc c'est un livre qui... c'est un livre très difficile, c'est un espèce de Joyce de la philosophie qu'on a à faire, c'est-à-dire un livre très, très compliqué, très complexe, d'ailleurs pour la traduction, et qui... on aurait du mal à résumer, mais je pourrais dire comme ça, j'ai essayé de penser le livre comme une espèce de scène de famille. C'est-à-dire pour les deux auteurs, il est toujours question, enfin pas toujours, mais souvent il est question de deux affaires de famille. Aussi bien pour Hegel que pour Genet, donc on discute, Derrida discute la position devant la question de la paternité, de la maternité. Par exemple, chez Hegel, le rapport à une sœur qui était un peu folle, donc la tentative de maintenir une espèce d'ordre philosophique, à la fois philosophique et ontologique, dans le sens de la biographie même, dans l'interprétation qu'on puisse donner de cela. Tandis que pour Genet, on connaît bien, c'est tout le contraire, c'est-à-dire... la paternité n'a pas la même place. Il fallait, comme j'avais dit, reprendre Derrida à nouveau frais, mais je dois le dire, je n'aurais pas tous les moyens de le faire ici. Pour moi, c'est comme j'ai dit, reprendre la lecture de Derrida, c'est une façon de reprendre aussi un objet, une façon de penser et recommencer quelque chose. Mais c'est une joie quand même de remarquer qu'Adrien Laroche a mis en œuvre quelque chose de ce genre en évoquant la figure de l'orphelin, en la relançant. Orphelin de quoi ou de qui? Qui est l'orphelin? Est-il seul, singulier? À quoi ou à qui se destine-t-il? Ce sont des questions possibles, entre autres. Pour Derrida, disons un peu brutalement, Genet était une espèce d'orphelin du sens, et nous devons comprendre le mot dans deux occurrences de son usage, au moins, celui de la sensation et celui de la signification. Genet était le fils d'une littérature essayant de se connaître, ou de se reconnaître modernement, dans l'aporie de son monument devenu tombe. Merci. C'est sans aucun doute l'époque où la littérature au sens moderne, entre guillemets, comme aimait dire Derrida, établit ses points de repère en consistance et en conscience. La scène littéraire que Derrida revendique elliptiquement et explore au moment même où elle se déroule, car Genet était encore en vie, était celle du scandale, de la manifestation scandaleuse de l'orphelin, de l'exposition érotique, violente, perverse, indécente, les goûts pour l'inversion des valeurs, une espèce de magnification du mal, du crime, de l'abjection. comment penser aujourd'hui, je me demande, un discours du corps et du corps littéraire quand l'exposition et le scandale semblent-ils plutôt recherchés en tant qu'effet, non pas du mal, de ce mal-là, de ce effet de mal, mais du spectacle, comme certains l'appellent. La fleur sauvage dont il est question chez Genet, par laquelle repose et s'ouvre l'insaisissable littéraire, est-elle recevable, irrécevable ? Ou encore, est-elle recevable ou irrécevable ? Comment ? Je ne veux évidemment pas affirmer qu'on a affaire à une lecture datée, dans le sens où elle aurait perdu sa valeur de donner à penser. Bien au contraire, reconnaître l'événement, son événement, qui est aussi historique, qui relève d'une date, comme disait tout à l'heure Cathy, c'est le commémorer, c'est l'ouvrir à cet élément dans lequel il aime respirer. Disons donc que le cadre où la lecture d'Héridienne gagnait sa force et établissait son fait devient pour nous un événement. Derrida souligne dans la lecture de Genet la figure de la fleur, qui n'est pas pour lui simplement l'érotisme, mais la figure profanée de la poésie comme acte de donner du nom. Comme on voit, on peut le reconnaître clairement dans les premières pages du journal du voleur, ce traitement de la fleur comme une espèce d'acte de nomination. Donc mettre la fleur en rapport avec les questions de la rhétorique ou de la valeur ontologique, avec A, d'ontologie, et pas de ontologie. Donc mettre la fleur en rapport aux questions ontologiques était pour Derrida un moyen de renvoyer à des interprétations fortes de Genet, comme celle de Sartre, où la fleur était, selon lui, je cite Derrida, infailliblement évitée. Il continue avec celle de la psychanalyse et celle de la littérature par la plus agile et la plus intelligente des leçons d'ontologie phénoménologique de l'époque à la française. Ferme guillemets. Et Derrida associa également à cette affaire les noms de Lacan, de Mauriac, de Bataille, une certaine exclusion du nom de Genet du tableau de la littérature française. Pas tous avec par la même raison, mais c'était quand même une affaire plus générale d'exclusion de Genet de l'histoire de la littérature française, pour ainsi dire. La question du nom ou encore de la renommée de Genet se pose là où l'euphémisme fait rage. Et si son nom et de par lui toute la littérature est liée à des refoulements de cet ordre, c'est surtout dans la mesure où il fait apparaître l'exclusion du corps dans la signification, ces lieux sauvages, irrécupérables, qui ébranlent le droit et signifient l'envers de l'institution littéraire, la littérature en tant qu'envers de la loi. Pour Derrida, il s'agit donc de donner raison à Genet. Je cite, comme il a raison, c'est ce que je veux montrer en vous déportant le plus vite possible aux limites d'un bassin, d'une mer, où s'arrivent pour une guerre interminable les Grecs, les Juifs, l'Arabe, l'Hispano-Mauresque, que je suis aussi à la trace. Fin de citation. Il y a beaucoup de choses là-dedans, et on le suit aussi à la trace. Bon, on se rappelle ici de la question du suivre l'animal à la trace. Mais je souligne simplement ce comme il a raison. Et avec ce comme il a raison, Derrida veut montrer au moins deux choses. Que oui, Genet a raison. Et aussi, veut-il montrer comment ? C'est une affaire qui concerne donc Genet, la littérature, mais aussi d'une façon très décisive, la capacité qu'un texte, celui de Glas, a de se destiner à la chose vivante, de se diriger à elle dans sa plus grande force d'interpellation. Donc il faut rappeler que Glas est un texte très osé du point de vue rhétorique. C'est un rapport évidemment très étroit avec cette, cette difficulté de se destiner à la chose dont il est question. Je cite là, « C'est la première fois que je peur, en écrivant, comme on dit, sur quelqu'un, d'être lu par lui, de ne pas l'arrêter, le ramener en arrière, le brider. » Je me demande quels étaient les rapports de Derrida et Genet après avoir écouté aujourd'hui l'entretien avec Ben Jeloun, mais comment donner raison à l'irrécupérable, ça pourrait être aussi interprété de ce côté-là, mais il faut, du point de vue de la pensée de ce livre, penser cette difficulté comme la nécessité pour Derrida du détour, d'une déportation. Il faut commencer par un détour. Il ne faut surtout pas, comme dit Derrida, vouloir dire sa vérité. La signification ne suffit plus à lui donner raison. Je me demande ici comment donner raison à Genet et du coup à Derrida de cet orphelinage dont la violence, évidemment, ne cesse pas d'avoir lieu aujourd'hui encore. Y aurait-il une chance pour nous aujourd'hui de reposer la question de la fleur et de la littérature, y compris celle de Genet, dans la perspective de la fin, selon les mots de Derrida? Je me pose cette question plus que d'avoir les moyens de la répondre. Le négatif de la littérature chez Genet, que Derrida appelle irrécevable, l'héroïsme en creux, ou bien en nuit, comme on l'a essayé ici de dire, d'une certaine vision de la littérature, est-il irrécevable aujourd'hui? Est-il l'irrécevable de la même façon? Qu'est-ce que cette inversion peut-elle déflorer par son nom? C'est une vaste affaire, évidemment. Je rappelle simplement que dans Glas, mais aussi dans la double séance que Derrida écrit à propos de Mallarmé, il était surtout important pour Derrida de poser une certaine interprétation de la modernité littéraire, de l'enjeu, de l'ambition littéraire, de devenir elle-même la chose, en étant aussi sa propre chose. Que l'affirmation de cette ambition coïncidait décisivement avec sa défaillance. Je lis donc là, le grand enjeu du discours, je dis bien discours littéraire, la transformation patiente, fusée, quasi animale ou végétale, inlassable, monumentale, dérisoire aussi, mais se tournant plutôt en dérision, de son nom propre, rébus, en chose, en nom des choses. La chose ici serait la glace dans laquelle prend les champs, la chaleur d'une appellation qui se bande dans les noms. Donc, fin de citation, l'enjeu du discours littéraire, quand le littéraire vient à se poser ou à se disposer comme projet, c'est sa transformation en chose, production ou autoproduction en tant que chose. Encore, ou plutôt, le rappel Derrida, la transformation de son nom propre, non pas exactement en chose, car en étant discours que se nomme, il s'appelle à soi-même par un nom, donc il s'y présente toujours déjà comme nom des choses. La parole, quand elle s'identifie, se regarde dans le miroir, se nomme. Elle devient discours, par exemple, discours des choses. Pas de formalisme autodévorant. Pour Derrida, devenu glace, la littérature est le lieu où les noms, en tant qu'appellation, se retrouve proche de l'appellation qui interpelle. L'appellation dans le sens du nom se rapproche beaucoup de l'appellation dans le sens du verbe, appeler, de l'appellation qui interpelle. C'est aussi, comme dit la phrase que je viens de lire, la chaleur d'une appellation qui se bande dans le nom. C'est aussi donc la chaleur qui appelle un autre ou qui s'y destine à un autre. Derrida serait d'ailleurs plus généreux, généreux ou minutieux par rapport à cet aspect dans Signe Éponge sur Francis Ponge, paru en 88, ou la portée éthique, politique ou amoureuse, dans les termes utilisés ici. Cette portée de l'appellation devient plus sensible. C'est dommage, j'ai perdu le speech de Bougon, je sais qu'il allait parler de Ponge. En tout cas, c'est dans l'acte de nomination, donc cet acte de donner du nom, ou bien l'épanouissement de la fleur, comme dit Genet, qui est en jeu l'existence de la littérature comme discours sur le réel. Genet définit, ou, distinction importante pour Derrida, fin de définir la métamorphose de l'écriture en nom des choses. En nommant, en baptisant le monde de cette manière, Genet produit la perception du nom comme proximité avec la mort. Nommer est aussi sonner l'églat, exposer les glaïeuls. C'est l'affaire des noms des personnages de Genet, des noms communs devenus de noms propres, des noms culturellement investis devenus des noms d'un certain individu, baptisés selon un procédé qui, envisagé de différents côtés, relèverait soit de l'identification magnifiante, soit de la subversion iconoclaste. L'élévation d'un monument ou d'une signature qui bande s'associe à la tombe. L'érection et la tombe sont nommées par les condamnés à mort à l'approche de l'échafaud, au moment où ça tombe. Genet, selon Derrida, je cite, bande dans son sein, mais l'occupe aussi comme un sarcophage. Fin des citations. L'acte de nommer chez Genet, par des coups d'éclat, de sème de la mort, mais aussi par la chaîne du signifiant Jaël, qui occupe beaucoup des lignes de glas et qui lui donne son titre. Donc cet acte de nommer par coup de glas sonnerait en quelque sorte la fin de la signification, comme répétition ou appellation de la chose en tant que telle. Dans ce sens, Genet est dans la tradition de la littérature au sens moderne, celle qui revient à la mimésis pour la faire souffrir en déplacement. Mais Genet n'est plus simplement un patronyme dans un paysage littéraire organisé autour de noms propres. Il a lui-même une scène dont il faut comprendre la force d'affirmation, une écriture signée Genet. La fin de la signification, cette expression, donc, pour moi, résume le point de vue, la thèse de Derrida sur Genet, renvoie alors non seulement au signifié, mais surtout au signifiant, deux types d'idéalité qu'il importait de mettre en question dans le cadre d'une théorie de la littérature souvent occupée à définir l'écriture comme privilège d'un corps, voire d'un corps devenu abstrait par la définition même. On devait enchaîner ici toutes les références que Derrida fait à la question du corps et de la mère chez Genet. L'incessante exhibition du corps reprend ainsi l'érection phallique plutôt du côté maternel, l'érection de l'essence comme non-essence, un certain rapport aussi à l'idiome en tant que langue maternelle. Peut-être pourrions-nous aujourd'hui, pour faire vite, l'appeler aussi la question de l'orphelin, être orphelin de sa langue, dans sa langue, mais aussi, j'ajouterais, que veut-il dire être orphelin de la littérature. De Mallarmé, qui était évoqué d'Anglas au passage, et comme traducteur d'ailleurs, ou de Ponge jusqu'à Genet, deux situations, deux statuts, deux partis pris très différents de la littérature par rapport à son institution. On dirait même des antipodes, à en croire certaines interprétations de ces auteurs dans le cadre de la question esthétique ou linguistique. Mais peut-être, et c'est ce que Derrida fait entendre, il aurait entre eux de traits communs, des rapports au nom, et même des rapports au nom commun, à la sacre du nom. Dans le naufrage du vers, dans l'appel des choses, dans la parodie de la rhétorique littéraire, il y a quelque chose qui fait que la littérature au sens moderne est conçue dans sa plus intime constitution comme une chose bâtarde, illégitime, à contre-courant de la lignée ou de la paternité de l'héritage. Hier, Alberdichi parlait d'un retournement copernicien chez Genet. La littérature, pour ainsi dire, contre la littérature, d'une certaine façon. Mais peut-être c'est la littérature au sens moderne qu'on voit ici bouger, se retourner, faire événement. C'est l'exposition de l'aporie pour laquelle l'honneur et l'abjection se répondent l'un à l'autre. Et donc c'est même quelque chose qui j'ai remarqué plusieurs fois dans les textes que j'ai entendus ce dernier jour, l'importance du rapport de Genet à la tradition. Et c'est même une question que je pourrais diriger à Frédéric, sur ce rapport que vous avez fait avec Homère, dans le sens d'une espèce de symétrie qui est aussi une inversion. Donc il y a là une réponse de Genet par rapport à la tradition, n'importe quelle tradition, c'est Homère quand même. Donc c'est la tradition, c'est les monuments littéraires par excellence. Et ce qui est apparu dans votre texte m'a semblé aussi très important dans le texte d'autres personnes qui n'ont pas toujours pointé le sens de certaines citations. Et là, c'est un problème aussi de citation. Je remarque seulement que j'ai entendu parler, enfin, il y a des gens qui ont fait un rapport avec Baudelaire, avec les lecteurs semblables, et il y a eu quelqu'un qui a parlé du temps dans l'œil du chien, qui renvoie directement à un texte de petit poème en prose. Les Chinois regardent le temps, l'heure, dans l'œil du chat. Et plusieurs autres exemples, je vais en donner un simplement, chez Baudelaire. Baudelaire dit dans Le cœur mis à nu, il dit le soldat, les prêtres et les poètes sont les seuls êtres dignes d'honneur, je crois, sur les mots. Enfin, c'est de mémoire que je cite. Genet dit dans Querelle de Brest, les policiers, les poètes, il ajoute les domestiques et les prêtres reposent sur l'abjection. Donc c'est une espèce d'inversion. Là où Baudelaire dit honneur, Genet dit abjection, et ce sont presque les mêmes termes. Donc on remarque là un travail qui est un travail de retournement, comme avait dit Alberdichi, mais d'une certaine façon, c'est une inversion qui avait déjà eu lieu. C'est-à-dire, quand Baudelaire dit honneur, il veut dire aussi abjection. Quand il parle de l'œil du chat, il parle aussi d'une façon très ironique sur le rapport entre l'amant et sa muse. Donc cette inversion qui est aussi une façon de la littérature de se mettre en rapport contre soi-même est quelque chose qui, à mon avis, fait partie de cette histoire de la littérature au sens moderne. Donc la question de la citation chez Genet me paraît assez importante parce que là, justement, on fait les calculs de son... le type d'insertion qu'il a dans la tradition et ce que veut dire cette tradition. Donc c'est là que je voulais arriver. Si la question Genet plutôt semble proche de la question littérature au sens moderne, il est intéressant de s'apercevoir que donc là, jusqu'à nous, ici, dans ce colloque, la question se déplace. Elle se déplace de la bâtardise, c'était le mot que Derrida utilisait, et c'était un mot important à ce moment-là. La question se déplace de la bâtardise à l'orphelinage, à l'orphelin. D'une affirmation, donc, du hors la loi qui sonne les glas, le glas de la signification, à la détresse, peut-être, de l'héritier. Je me demande finalement si une des tâches de l'homme orphelin ne serait-elle pas de repenser l'héritage ? Si la fin de la signification ne touche-t-elle pas aujourd'hui à la question de la fin de la littérature ? La littérature elle-même en tant que genre et du poétique comme sa pointe la plus acérée, oxymorique, celle qui est la plus facilement mise en marge par les stratégies du succès, pour reprendre un mot de Sartre, d'un succès politique ou marchand. Je ne parle pas d'un phénomène sociologique de crise, mais de la montée en puissance ou de la généralisation d'un discours sur la crise, d'un discours qui fait ses adieux à la littérature, d'une apocalypse qui n'a pas un sens seulement et qu'il faut savoir reconnaître dans ses modalités. Désigné en tant qu'orphelin de sa tradition, l'écrivain semble occuper la place du condamné à mort, qui s'oppose évidemment non pas au criminel, mais au bourreau, de celui qui est le fils de son père et petit-fils de son grand-père, et aussi des bourreaux, c'est-à-dire ceux pour qui l'héritage est toujours paternel, de l'ordre de la continuité rassurante et sans crise. Dans ce sens, l'orphelin est celui pour qui l'héritage n'est pas ou n'est plus pour lui son dû, son fonds de réserve, la garantie de son nom. Pour qui le fait de se regarder mourir, de pouvoir écrire, comme on dit de Genet, afin de sortir de prison, le fait donc de pouvoir écrire, de se regarder écrire, se regarder mourir, est un moyen de se constituer pas seulement dans la crise, mais comme non de la crise. C'est ce que semble nous faire subir, à nous peut-être, depuis longtemps, cette étrange institution dont le monument est aussi sa tombe, la littérature. Dire la fin et dire sa propre fin, pratiquer l'envers de la loi, qu'on a traduit de multiples façons ici, et encore, par un autre biais, contrarier l'euphémisme ou l'hyperbole de la crise. Voilà, merci.
Merci. Philippe Beck.
Alors, je remercie bien sûr Adrien, Patrick Deville, Patrick Bonnet, et l'abbaye de Fontevraud. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Le titre de mon intervention est le suivant, « Quelqu'un dans la multitude d'un poème ». Ce quelqu'un, c'est évidemment Genet et voilà. Comment Genet réussit-il au sein d'une poésie que je dirais ici malherbienne pour reconstituer une autre lignée, puisque visiblement il y a beaucoup de lignées au sens de Deleuze. Comment Genet réussit-il au sein de cette poésie malherbienne que je définirais d'abord par le fait de pratiquer amplement l'alexandrin syntaxique, l'alexandrin strictement syntaxique. Comment Genet, donc, réussit-il à éveiller le lecteur au milieu du mot, selon la formule de Mandelstam dans l'entretien sur Dante ? Comment donc réussit-il à conjoindre la phrase et le nom et le mot voilà. Je dirais qu'il s'efforce à ce qu'on peut appeler l'éveil hymnique. Alors, que faut-il entendre par éveil hymnique ? Eh bien, il faut entendre par là quelque chose de très simple, le fait d'abord que l'hymne repose sur le nom, hein, que l'hymne, c'est d'abord le chant du nom. On peut, dans un premier temps, opposer l'hymne à l'élégie, au sens où l'élégie, reposant sur la phrase, l'élégie serait incapable d'adhérer au nom, hein, de n'être que le chant du nom. L'élégie est plainte. Et peut-être connaissez-vous la distinction qu'Agamben effectue entre la plainte, qui, dit-il, est toujours plainte à propos du langage, et la louange, qui est toujours louange du nom. Il ajoute, la plainte commence là où la nature se sent trahie par la signification, là où le nom dit parfaitement la chose, le langage culmine dans le chant de la louange, dans la sanctification du nom. Il me semble que cette distinction est trop est binaire et qu'il faut la compliquer un peu, et Genet nous donne l'occasion de peut-être de repenser ou de compliquer notre conception de l'élégie, précisément. Au cœur de l'élégie, donc, celle du condamné à mort, peut-être y a-t-il très exactement aussi éveil hymnique. Genet, pour être un peu plus concret et moins spéculatif, Genet tente de sauver le nom Pilorge en imitant pourtant la poésie malherbienne, c'est-à-dire la stricte coïncidence de l'alexandrin et de l'unité grammaticale et syntaxique. Alors, j'ai trouvé une réminiscence de la consolation à Monsieur Dupérier de Malherbe dans le 10e poème de La Marche funèbre. Or, il se trouve que ce fameux poème de Malherbe, l'estance à Monsieur Dupérier, dont chacun connaît, mais elle était. Mes roses, mes alités du monde où les plus belles choses ont le pire destin, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Cette strophe-là, en tout cas, est célèbre. Cette strophe, Léo Spitzer lui a consacré un bel article en 1926 qui a pour titre « Sauver l'honneur de consolation à Monsieur Dupérier de Malherbe ». Et cet article nous intéresse particulièrement. Je voudrais juste citer, avant de regarder d'un peu plus près les choses, de regarder d'un peu plus près un poème de Genet et l'article de Spitzer s'agissant de Malherbe. Je voudrais juste vous citer la phrase exacte, les deux phrases exactes de Mandelstam s'agissant de l'éveil au milieu du mot. Ce qui distingue la poésie de la parole machinale, c'est que la poésie justement nous réveille, nous secoue en plein milieu du mot. Ce dernier se révèle alors à nous d'une étendue bien plus vaste que nous ne l'imaginions, et nous nous rappelons soudain ce que parler veut dire se trouver en chemin. Donc il est bien clair que pour Mandelstam, le mot ne s'oppose pas à la phrase, mais au contraire, la stase sur le mot, comme on dit parfois, ne s'oppose pas au flux. Et je voudrais donc que nous nous rappelions ce passage de Mandelstam, non pas pour opposer le nom et le mot dans la phrase, mais pour au contraire penser la présence de l'hymne, donc du nom, la louange du nom, dans l'élégie, dans la phrase élégiaque. Bien, alors la plainte quant à la langue est évidemment extrêmement présente dans les alexandrins tout à fait réglés, pratiquant très peu l'enjambement et le rejet de Genet. On a l'impression évidemment d'une espèce d'un orgue de barbarie. Enfin, il fait des alexandrins talentueux au kilomètre de façon toujours impressionnante et vivante, il faut bien le dire. Et je n'avais pas l'intention de dire le contraire, du reste. Enfin, je vais vous citer donc ce poème, hein, de Genet, où les vers de 6 syllabes à la fin des strophes, des quatrains, succèdent donc à 3 alexandrins. Et cette forme précise, ce passage du 12 au 6, a une histoire très précise dont parle Spitzer et qui est très intéressante pour nous. Mon cachot bien-aimé dans ton ombre mouvante, mon œil a découvert par mégarde un secret. J'ai dormi des sommeils que le monde ignorait, où se noue l'épouvante. On entend notamment donc, ces tétramètres très réglés dont parlait Frédéric Martin Scherrer. Sauf que la chute donc, de chaque strophe est un vers, si vous voulez, un alexandrin coupé en deux, hein, un vers de six syllabes. Tes couloirs ténébreux sont méandres du cœur et leur masse de rêves organise en silence un mécanisme ayant du vers la ressemblance et l'exacte rigueur. Hein, je reviendrai pour finir à cette étrange... cet étrange passage, un mécanisme ayant du vers la ressemblance et l'exacte rigueur. Ta nuit laisse couleur de mon œil et ma tempe, un flot d'encre si lourd qu'elle en fera sortir des étoiles de fleurs, comme on le voit d'un tir, la plume que j'y trempe. J'avance dans un noir liquide où des complots informes tout d'abord lentement se précisent. Qu'hurlerai-je au secours ? Tous mes gestes se brisent. Et mes cris sont trop beaux. Vous ne saurez jamais de ma sourde détresse que d'étranges beautés que révèle le jour. Les voyous que j'écoute après leurs mille tours à l'air libre se pressent. Ils dépêchent sur terre un doux ambassadeur, un enfant sans regard qui marque son passage en crevant tant de peaux que son joyeux message y gagne sa splendeur. Vous pâlissez de honte à lire le poème qu'inscrit l'adolescent au geste criminel, mais vous ne saurez rien des nœuds originels de ma sombre VM. Car les parfums roulant dans sa nuit sont trop forts. Il signera Pylorge et son apothéose sera l'échafaud clair d'où jaillissent les roses, bel effet de la mort. Le poème suivant dira le lien de, je cite, la rose avec le mot de mort. Le lien donc de l'hymne avec l'élégie, ce lien du nom loué avec la plainte qui lance en phrase ce qu'on peut appeler, ce que je propose d'appeler, un regret du futur. Ce regret affirmatif qui complique donc la définition de l'élégie s'exprime dans la dernière strophe du poème 10, la strophe de la signature, après la description de l'excès limité du poème. Ce que Spitzer, donc cette dernière strophe, vous vous en souvenez, car les parfums roulant dans sa nuit sont trop forts, il signera Pylorge et son apothéose sera l'échafaud clair d'où jaillissent les roses, bel effet de la mort. Bon, si vous m'accordez qu'il y a là une réminiscence de la stance à M. Dupérier, je peux continuer. Puis-je ? Donc, ce que Spitzer a admirablement montré sur les sources de Malherbe vaut, je crois, pour Malherbe, source de Genêt. Donc, c'est la lignée que je privilégie ici. Bien sûr que la lignée, l'autre amant, d'autres lignées sont possibles. Mais la lignée Malherbe me semble tout à fait intéressante, s'agissant précisément de la différence entre la poésie et la prose, si différence il y a, et je crois qu'il y a. La retenue du lyrisme de Ronsard, hein, je cite Mignonne, « Puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir », la retenue du lyrisme de Ronsard, contrairement à la vision qu'on a depuis Boileau, notamment de la poésie de Ronsard, cette retenue est un fait. La retenue, évidemment, est éminemment présente chez Malherbe. Et notamment ce que Spitzer appelle le chiasme rigoureusement fermé de « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Hein, »« Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » Spitzer parle d'un chiasme rigoureusement fermé. La retenue, évidemment, va très loin chez Malherbe, puisque le stoïcisme remplace le carpe rosam. Brunetière le notait, cependant, les pointes de Ronsard ne sont pas du tout évitées par la sécheresse de Malherbe, mais bien plutôt reprises dans la sèche et dure poésie de Malherbe. Et on pourrait dire qu'évidemment, c'est d'autant plus vrai dans Genêt. Une nouvelle intensification a lieu dans le passage de Malherbe à Genêt. Je n'y insiste pas. Le lyrisme, puisqu'il s'agit bien de lyrisme, est un lyrisme sobre, dans Malherbe, dit Spitzer, par encadrement compressif, mais, et c'est, j'en viens donc au point qui nous intéresse sans doute le plus, cela ne fait pas, dit Spitzer, cela ne fait pas de Malherbe un non-lyrique prosaïque, un unlyriker. C'est un mot difficile à traduire, unlyriker, un non-lyrique, un anti-lyrique, un délyrique. Voilà. Eh bien, évidemment, on pourrait le dire de Genet également. Il ne s'agit pas d'un non-lyrique ou d'un anti-lyrique. Je crois que ça a été assez souligné. Si bien que la dureté de Malherbe se continue dans Genet, Spitzer parle de consolation durcie. Il parle, s'agissant de Malherbe, parle d'une consolation durcie, on pourrait dire, qu'évidemment, dans Condamné à mort, cette consolation durcie se continue. On comprend alors pourquoi l'interdit de l'enjambement dans Boileau peut emprunter lui-même à Malherbe sa forme géminée et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Il y a donc une lignée classique de Ronsard à Genet, une lignée qui se fait par l'alexandrin peut-être, et la présence de l'alexandrin dans la prose, qui ne plairait pas à tout le monde aujourd'hui d'ailleurs. Pour vous c'était une qualité, pour d'autres c'est un grave défaut que l'alexandrin s'oublie dans la prose. Mais peu importe, il ne s'agit pas de juger la prégnance de l'alexandrin. Simplement, il faut insister sur le fait que la coïncidence de la phrase ou de la syntaxe et de l'alexandrin permet précisément à Genet de produire ou de continuer de produire un lyrisme sec et précisément très scandé, très, très rythmique. Cela dit, je fais une parenthèse, il y a un très grand poète qui, à mes yeux, est le plus grand poète de langue française, La Fontaine, qui pratique allègrement l'enjambement. Et c'est un problème, évidemment. Dans un livre tout récent de Peureux sur la fabrique du vers, le problème, c'est La Fontaine. Que faire de La Fontaine? Est-ce qu'à l'époque où La Fontaine écrivait, même si on parlait du vers libre dans un autre sens, au sens hétérométrique, est-ce que ces fables étaient identifiées comme poèmes? C'est une question non résolue par les théoriciens d'aujourd'hui. Bon, je ferme cette parenthèse, mais ça me permet de parler de La Fontaine. Je n'aurai jamais eu l'occasion d'en parler. Ça se comprend. Donc, l'assèchement, le durcissement, il n'est pas gratuit. Il s'effectue justement par division, par réduction. Donc 12-6. Or, cette forme de, eh bien, précisément, elle remonte à Ronsard. Elle est datée à peu près de 1554. Spitzer dit que c'est précisément un produit de Ronsard. L'estance à Dupérier, modèle du poème du condamné, ont donc recours à la réduction de 12 à 6 pour assécher le lyrisme et non le supprimer. Et Spitzer parle à propos de Malherbe d'une caresse sur une fleur parfumée. Je crois que cette caresse sur une fleur parfumée pourrait aussi bien être correspondre au geste si paradoxal de Genet. Et ce quelque chose de douloureusement fermé, de concentré, de comprimé dont parle Spitzer à propos de Malherbe est tout à fait vrai également du poème versifié de Genet. Spitzer a cette formule, la vie est courte et le vers est court. Donc le passage du 12 au 6 est parfaitement en accord au plan formel avec précisément la nature élégiaque, profondément élégiaque de tout poème. Je crois profondément que le poème est essentiellement élégie. Avant d'être hymne, il est profondément élégie. C'est quelque chose que je crois profond et que Genet sans doute confirme. Le cri humain est bâillonné par la brièveté du vers, dit encore Spitzer, que je cite abondamment, j'en ai conscience. Il a une deuxième et dernière image, Spitzer. Les roses enserrent le marbre. Les roses enserrent le marbre. Je crois que également, on peut parfaitement reprendre cette formule appliquée à Malherbe. On peut la reprendre et l'appliquer à Genet. Pour supprimer la lyrique, Genet eut donc pu supprimer le nom et le mot de rose. Il ne l'a pas fait. Et on notera que l'une des sources de Malherbe, l'écossaise de Montchrétien de 1600, oppose, à la différence de Malherbe, qui lui ne les oppose pas, elle ne les distingue pas, deux sortes de roses. Les roses de jardin ne durent qu'un matin, mais ces roses du ciel n'auront jamais de fin. Un Malherbe n'est donc pas ce métaphysicien qu'on imagine, c'est un stoïcien assez terre-à-terre et prosaïque, comme on l'a dit. Il n'y a pas deux sortes de roses chez Malherbe, de la même façon qu'il n'y en a pas deux chez Genet. Il n'y a une sorte de rose, ce sont des roses de terre. Des roses d'échafaud prennent le relais dans Genet et appartiennent au nouveau, ce qu'il faudrait appeler le nouveau bouquet classique. Évidemment, je n'oublie pas que Miracle de la Rose est cependant un roman. Je voudrais, pour en finir, citer un passage de la Grammaire de la Multitude de Paolo Virno qui me semble nous indiquer assez sûrement notre situation s'agissant de tous les malentendus liés à la question de l'avant-garde et la question de l'innovation, puisqu'évidemment, Genet est un excellent exemple de prosateur qui, lorsqu'il écrit de la poésie non-avant-gardiste, si vous voulez. Il refuse manifestement le vers libre, malgré quelques poèmes en prose. Bon, massivement, il écrit de la poésie, disons, d'allure classique. Voici le passage de Virno. « Aujourd'hui, toute innovation impétueuse ne bouleverse pas des formes de vie traditionnelles et répétitives, mais intervient sur des individus habitués désormais à ne plus avoir de solides habitudes, rompu au mouvement brusque, exposé à l'inhabituel et à l'imprévu. On a affaire, toujours et de toute façon, à une réalité qui a déjà connu l'innovation à plusieurs reprises. Il n'est donc plus possible de faire une distinction effective entre un dedans stable et un dehors incertain et tellurique. La variabilité permanente des formes de vie, mais aussi l'entraînement à affronter un aléatoire non canalisé avec le monde en tant que tel, avec le contexte indéterminé, de notre existence. Et c'est peut-être évidemment à cet endroit que la différence entre Malherbe et Genet est frappante, puisque le stoïcisme est impossible à Genet. Si donc avant-garde il y a dans la modernité, c'est une avant-garde toujours relative ou conditionnelle. La dernière façon de Genet, vous le savez bien, c'est la prose. Ce n'est pas la poésie, ce n'est pas l'alexandrin. La première page d'Un captif amoureux, 40 ans après Miracle de la Rose, en 1986, si ma mémoire est bonne, Miracle de la Rose est de 1946, n'est pas au hasard un art de la lecture, où Genet demande « La réalité est-elle cette totalité des signes noirs ?» Il ajoute « Lire entre les lignes est un art étal, entre les mots aussi, un art à pic. L'espace mesuré entre les mots est plus rempli de réel que ne le sera le temps nécessaire pour les lire. » Alors ici, dans ce passage, le prosateur Genet n'insiste pas tant sur ce qui se produit à l'intérieur du mot, que sur ces intervalles, sur l'intervalle entre les mots, qui évidemment pour lui est occupé par le réel. Hein, on pourrait dire que, très curieusement, ce livre si malarméen à bien des égards est en rupture, en même temps avec Mallarmé, puisque le réel est ce qui, on pourrait dire, conditionne malgré tout la totalité des signes noirs. Cependant, bien entendu, l'impératif de Mandelstam d'éveiller le lecteur au milieu du mot, cet impératif n'est pas oublié. simplement jeûner cherche à décimenter la prose pour qu'en elle respire la phrase réelle du nom, qui n'est pas évidemment ici celle de Pilorge, mais enfin d'autres noms propres occupent évidemment cette immense élégie en prose que constitue un captif amoureux. La question, pour finir, que je voudrais poser ici, c'est une question ouverte, peut-être ma question va-t-elle dans un sens opposé à celui de Derrida, c'est la suivante, la prose est-elle orpheline de sa mère poésie? Bon, je ne voudrais pas simplement poser une question, mais suggérer que l'orphelinat dont il est question, c'est l'orphelinat de la poésie elle-même depuis toujours, puisqu'elle est depuis toujours en quête d'elle-même. La poésie est en quête d'elle-même dans la prose qui la transit. La poésie est toujours transie par la prose. Et c'est pourquoi l'étrange formule de Genet qui surgit au cœur de ce dixième poème dont j'ai parlé, que je vous ai cité, vous vous rappelez, un mécanisme ayant du vers la ressemblance et l'exacte rigueur, cette formule décentre étrangement le poème, hein, comme si le poème ne pouvait pas accéder à lui-même, comme si au cœur du poème le plus réglé, en alexandrin 12-6, comme si ce poème-là ne pouvait jamais être assuré complètement qu'il est poème. Il se ressemble, ça ressemble à de la poésie, mais comme si la poésie ne se définissait pas toujours par son écart à elle-même. Et je crois qu'il y a là une différence avec ce que Derrida, peut-être dans une lignée benjaminienne, dit dans son fameux court texte en prose intitulé « Che cos'è la poesia ?»« Qu'est-ce que la poésie ?» Je crois qu'il y a là une véritable différence, puisque pour Derrida, prose signifie « adieu à la poésie hein, », conformément à cette thèse qui surgit dans le cœur du premier romantisme allemand, qui est notamment celle de Novalis citée par Benjamin dans le concept de critique. L'idée de la poésie, c'est la prose. Je crois que Derrida profondément s'inscrit dans cette relève de la poésie par la prose. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une fatalité à cette relève. Merci.
Merci Philippe Beck, merci Marcos Iscar pour ces points de vue. Je sais que vous avez commencé à le dire, des questions à poser à Frédéric Martin Scherer, mais peut-être que je vais lui laisser la parole en premier pour réagir peut-être à vos interventions, parce que je vous ai vu hocher la tête plusieurs fois, en particulier au propos de Philippe Beck. Donc, je vous invite à commencer cet échange avec vos réactions à ces lectures.
Oui, vous avez parlé de... Vous avez essayé de déplier les significations du nom en tant que nom orphelin de père. Et je songeais, en vous écoutant, au mot « Genet » qu'on a déplié un certain nombre de fois dans ce colloque. Et je rêvais autour de ce nom à « Genet », N-A-I-S, comme si le processus de création était, comme si naître était une tâche toujours à recommencer, puisqu'il n'est pas né. D'habitude, on dit « je suis né ». Bon. Mais « Genet », c'est une chose qui est toujours à refaire. C'est une tâche de Sisyphe, c'est l'écriture. Comme je songe à Bulcaïn qui veut se faire appeler « bijou », avec l'ambiguïté du nom bijou, suivant qu'il y a un X ou pas d'X, évidemment, dans un cas, avec l'X, c'est son exploit, il est voleur, donc guerrier, et sans X, c'est l'équivalent du sexe féminin qu'est le sphincter anal. Donc évidemment, il y a un renversement du nom. Alors avec ce mot Genet, on a tant rêvé autour de ce nom que j'essayais de poursuivre un peu votre voyage autour de ces nouvelles implications tiré du nom orphelin, du nom de l'orphelin. Qu'en pensez-vous?
Hein?
Bon, merci. Je ne sais pas si je serais la meilleure personne pour parler du point de vue de l'orphelinage, pardon, par rapport à Géné, mais je suis sûr que on aurait là dans son être, dans ce rapport à la naissance, peut-être une réponse pour l'aporie que je mettais au premier plan par rapport à la nomination, à l'acte de nommer, dans le contexte aussi de rapport à la tradition, c'est-à-dire ce que veut dire nommer pour la première fois, disons, c'est un peu ça qui est en jeu. Et quand on parle de, disons, c'est pas le meilleur mot, mais l'originalité d'un écrivain, sa façon de s'écarter de ce qui a été fait avant lui, et surtout dans le cas d'un écrivain qui est lu donc par Derrida, mais par bien d'autres, comme un cas de contraposition constante, de choc contre ce qu'il reçoit, d'une certaine une liberté qui est parfois prise comme quelque chose d'immoral, même par rapport à, je disais tout à l'heure sur, je parlais sur les citations, quelqu'un, donc ce serait immoral par exemple d'envisager que la phrase que je lis sur les prêtres, les soldats, etc., a été prise à Baudelaire, c'est-à-dire sera un plagiat, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, je sens qu'il y a quelque chose là que je ne connais pas bien, justement, parce que je ne suis pas un lecteur assidu de Genet, mais d'après ce que j'entends là, il y a quelque chose là qui est très important. Et je crois que c'est Dichy qui parlait à la table l'autre jour sur le fait que Genet cite de mémoire. Donc c'est une façon de régler un problème qui est un problème du rapport à la tradition. Mais je ne crois pas que ce problème-là, il doit être jugé du point de vue traditionnel, mais pas du point de vue moral, évidemment, ni du point de vue simplement de l'originalité. Je vois qu'il y a là une façon de naître, c'est-à-dire la façon dont j'ai né se rapporte à la tradition, c'est peut-être, je commence à penser de cette façon-là, c'est peut-être une façon de montrer un type de naissance, c'est-à-dire un type une façon de se faire, de montrer aussi quelque chose qui est extrêmement traditionnel, on n'aime pas beaucoup à dire ça aujourd'hui, dans la littérature. C'est-à-dire le fait de se constituer de sa perte, de se constituer même contre la tradition littéraire, de se constituer à chaque fois comme si on laissait tomber toute la littérature, toute l'institution littéraire, c'est une façon très traditionnelle de naître dans la littérature. Et là, je n'oppose pas poésie et prose, évidemment, parce qu'il y a plusieurs façons de prendre ce problème-là, c'est-à-dire comme Philippe Beck a commencé à évoquer. Donc, mais il y a quelque chose là que je crois qui est important pour la façon dont on envisage l'institution littéraire. Et ça me donne me donne l'envie de penser aussi à ça dans la mesure où aujourd'hui il y a une discussion quand même importante en France sur la poésie contemporaine comme quelque chose qui est une post-poésie ou bien quelque chose qui n'est plus la poésie, c'est une espèce de synonyme qui n'a plus le même sens. Donc ce rapport à la tradition, cette façon de concevoir la littérature comme un endroit où on est, ou jeûner, ça me semble très important, même si je ne sais pas, je n'arrive pas à développer dans, peut-être dans le sens où vous avez pensé.
Peut-être une réaction par rapport à ce qu'a dit Philippe Beck aussi sur la métrique en particulier, puisque vous l'avez évoqué tous les deux.
Oui, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est cette opposition entre l'élégie considérée comme, du point de vue de la phrase, de la plainte, de la phrase, et l'hymne comme valorisation du nom, louange du nom. On pourrait poser justement la question de l'épique, de l'épopée, qui pourrait bien être les deux à la fois, parce que l'épopée, c'est à la fois un récit, donc ça avance, et en même temps, l'épopée est pleine de stases, qui sont les noms des héros avec leur adjectivation particulière, une adjectivation qui change dans la langue d'Homère, suivant que, par exemple, Achille. Achille est le tueur d'hommes, où il est au pied léger, ou etc. Il a plusieurs épithètes. Suivant que Achille est au nominatif, à l'accusatif, au datif. Bon. Donc, nous avons ici à la fois de l'itératif, quelque chose qui avance, qui se place dans la syntaxe, qui est donc l'élégie, la plainte. Et Dieu sait s'il y a de la plainte chez Homère. Et en même temps, il y a cette louange, cette espèce de dimension verticale et cette louange du nom, parce que le nom du héros est à elle seule une louange. Donc je me demande s'il n'y a pas les deux dimensions au fond qui s'entremêlent dans Miracle.
Là, c'est évidemment la question la plus difficile, parce que s'agissant de la littérature dite contemporaine, et en, disons en France pour simplifier, ou en Europe, la vraie question qui se pose, mais est-elle posée? Ose-t-on la poser aujourd'hui? C'est, est-ce qu'une épopée est possible? Je crois profondément qu'en Europe, une épopée n'est pas possible. Alors c'est ce que vous avez dit est parfaitement vrai d'Homère. C'est-à-dire que l'élégie est absorbée, et l'hymne aussi, d'une certaine manière, sont absorbés dans l'épos. Mais ça, c'est précisément ce qui, déjà, pour Hölderlin, était impossible. On ne pouvait plus produire un nouvel épos. Et s'agissant du statut même du roman ou de la prose narrative aujourd'hui, c'est une question tout à fait décisive. Est-ce qu'une forme peut à nouveau, une forme en prose, pour dire les choses de manière très générale, peut à nouveau s'approprier l'hymne et l'élégie? Beaucoup de romanciers considèrent aujourd'hui que le roman a absorbé la poésie, qu'il n'y a plus de... S'il y a une poésie qui se pratique encore, qui se réfère au vers, c'est en tout cas une, dans le roman que la poésie est véritablement vivante. Et l'idée qui est derrière cette thèse, plus ou moins déclinée, plus ou moins virulemment soutenue, c'est tout de même que le roman a pris la suite de l'épopée, et que le roman, c'est l'épopée d'aujourd'hui, enfin l'épopée bourgeoise dans les termes de Lukács, mais c'est une vraie question, hein, puisque l'épopée fonde la vie d'un peuple. Hein, c'est la fonction mythique de l'épopée qu'il faut souligner ici. Est-ce qu'aujourd'hui, le roman peut répondre à cette définition de l'épopée, peut répondre aussi à cette exigence? Est-ce qu'il peut satisfaire à cette exigence? Moi, je ne conteste pas l'importance du roman qui est évidente aux yeux de tout le monde, mais je crois vraiment, véritablement, que la définition épique du roman est, en tout cas pour nous, enfin, en Europe, totalement impossible. Parce que, tout simplement, pour prendre l'exemple de la France est une vieille nation qui a eu hein, la chanson de Roland, qui a eu son épopée. Bon, pour la France, ça n'est pas Homère, voilà, les tentatives dans ce sens, aussi bien d'ailleurs poétiques, hein, que ce soit la légende des siècles de Hugo ou romanesque, en tout cas pour un pays comme la France, ces tentatives-là les faits sont là, hein, n'ont pas fondé la vie du peuple français. Voilà.
Justement, je suis très contente que vous me disiez cela parce que ça me permet de préciser quelque chose. J'ai dit que l'épique était un registre. Donc ce n'est pas du tout l'épopée au sens d'une foi. Laissons la chanson de Roland. Je pense que si je n'ai appris le registre de l'épique, c'est parce que justement, cette épopée-là, cette épique-là, n'est pas l'épique adulte. C'est l'épique de l'enfance. Et ça, on ne lui donne pas sa voix. On n'entend pas sa voix. Alors bien sûr, on peut parler de la légende des siècles, on peut parler de toutes sortes de choses qui s'adressaient à un public adulte en son temps. Mais il me semble que Genet, dans Miracle de la Rose, arrive à donner profondément la parole à ce qu'il appelle l'enfance, c'est-à-dire une sorte de préadolescence, avant l'âge de l'acceptation, qu'il appelle l'âge du casseur, en disant que les casseurs sont moins rigoureux que les enfants, la rigoureuse intransigeance de l'enfance, ne trouve pas sa voix. L'épopée, l'épique, le registre épique emprunté à Homère dans Miracle de la Rose donne voix à cet âge que Genet a su garder extrêmement vivant en lui, avec une précision et une mémoire extraordinaire. Ça va jusqu'aux plus petits détails qui n'intéressent que les gosses, comme la manière de se coudre des fausses poches ou de casser sa casquette. Et ça, là oui, on est dans l'épique, mais dans une épique. Exactement, je suis entièrement d'accord, je dis plus haut, on n'est pas dans le politique, mais dans le poétique, donc pas dans le politique, et c'est précisément ce que je disais en disant que dans Miracle, on ne passe pas de l'Iliade à l'Odyssée. Parce que l'Odyssée, c'est le politique. C'est la polis, P-O-L-I-S, la cité grecque. Avec cette utopie contenue dans l'Odyssée et que Ulysse transporte avec lui et qui est l'utopie du pays d'Alkinoos, le pays de la concorde, où tout se règle par l'entente et la discussion. Non, il n'y a pas d'Odyssée, il n'y a pas d'acceptation de l'harmonie sociale, il n'y a pas de passage à l'âge adulte dans Miracle de la Rose. On reste bloqué à l'étage de l'épique, qui est le contraire du politique, parce que c'est l'étage de l'enfance. Et donc, quand certains critiques ont prononcé un certain nombre d'accusations que nous connaissons tous à propos de Genet, en se référant au roman, ils faisaient, à mon avis, d'abord une erreur tout court, mais de toute façon une double erreur, justement parce que ces romans se réfèrent à un âge, tout au moins Miracle de la Rose, et jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement, Pompe Funèbre, à un âge pré-politique. Il n'est pas encore marqué par le désir de l'aboutissement, le coming out dont on a parlé ce matin.
Le statut d'un captif est problématique à cet égard. Il y a une tentative de synthèse entre le pré-politique et le politique, qui est évidemment une question pour nous, hein, une question, quelle que soit la merveille littéraire du livre. Hein. Bon, voilà. La poésie, du coup, si on lui donne le sens épique que vous lui donnez, la poésie alors est exactement définissable comme exploration de la réception enfantine, du moment d'enfance, de la perception et de la compréhension. C'est-à-dire la définition. Si on définit la poésie par le lyrisme, ou alors par l'épique au sens où vous l'entendez, par le lyrisme épique, c'est-à-dire le lyrisme compris dans ce registre épique que vous avez défini, à ce moment-là, le lyrisme ne se définit qu'en rapport à l'enfance, à la perception enfantine.
Juste un mot là-dessus. Par lyrisme, c'est un mot que j'ai eu l'air d'employer un peu légèrement. Je voudrais l'employer dans le sens que lui donne Jean-Michel Maupois, c'est-à-dire une incandescence, un moment où il y a une forte température de langage. Bon, pas au sens traditionnel de... Oui, mais dans Un captif amoureux, nous sommes dans l'après. Pour moi, dans Un captif amoureux, Genet parle d'Homère, il ne fait pas Homère, alors que dans Miracle, il est à nouveau Homère, il s'incorpore. Vous aviez dit autre chose à quoi je voulais répondre. Oui, je pense que la question du poétique est plus compliquée que simplement une, ce que j'ai sorti, c'est une clé. Je ne pense pas que ce soit la clé, hein, parce qu'il y a dans Miracle de la Rose un phénomène qui appartient à la poésie post-mallarméenne et qui est le ralentissement de la lecture. L'épopée, c'est au contraire quelque chose, comme je l'ai dit, qui avance et qui est facile à recevoir, alors que dans Miracle de la Rose, il y a une dimension poétique moderne, post-mallarméenne, qui est le ralentissement du sens, qui fait que constamment on avance dans Miracle, dans la lecture, comme dans Marcel Aimé, lorsque le passe-muraille n'a plus son médicament et qu'il commence à traverser les murs, mais péniblement, il sent le passage de la matière. C'est un peu ça pour moi, la poésie post-mallarméenne, ça ralentit, ça rend le sens. Je ne sais pas quel néologisme faire, ça décursivise la lecture, ça la rend moins cursive, moins. On ne court plus, quoi. On rampe, on rame, on revient en arrière. Voilà. Il me semble qu'il y a aussi ça dans Miracle.
Quand vous dites cela, vous retrouvez exactement la définition de la poésie de Hegel dans le cours d'esthétique. Il dit que la poésie se caractérise par la lenteur et la prose par la rapidité. Cependant, il dit en même temps, Hegel, que l'insistance sur le détail, c'est-à-dire le ralentissement excessif, hein, qui, descriptif par exemple, trahit à son tour la poésie. Donc il faut une juste lenteur et la description ne peut pas définir la poésie, par exemple, pour Hegel. Mais c'est vrai que ce concept de lenteur est exactement mis au centre de la définition de la poésie par Hegel. Là, vous avez retrouvé Hegel au passage. Cela dit, le cours d'esthétique, donc, comme vous le savez très bien, le dernier moment, c'est la poésie dramatique. C'est ni la poésie épique, ni la poésie lyrique, en tout cas définie par Hegel. Oui.
Philippe Beck, Frédéric Martin-Scherer, on va vous ôter le micro, même si c'est passionnant de vous entendre, pour le prêter à l'assistance, pour le rendre aussi à Marcos Cissard, qui peut réagir peut-être aussi à vos propos, mais aussi aux questions de l'assistance à qui on va faire passer le micro pour des questions ou des réactions qui peuvent aussi vous concerner. Adrien Laroche. Celui-là marche.
Ouais. J'ai menti, je ne vais pas poser une question, je vais conclure. Mais parce que tout le monde est très fatigué et j'espère que d'autres prendront la parole après moi, donc ça ne sera pas une conclusion, mais comme j'ai dirigé cette conférence, je voulais très rapidement remercier tous ceux qui sont intervenus, que j'aimerais nommer, notamment les trois derniers, Marcos Cissard, Philippe Beck et vous-même, mais tout le monde, d'Albert Dichy, René Tsekati, Agnès Van Ouvong, Thomas Newman, Myriam Bedim Salas, etc., etc. Je ne vais pas tous vous nommer, mais je vous remercie d'avoir pris au sérieux cette interrogation sur Genet, de l'avoir, pour ma part en tout cas, le sentiment que j'ai après cette conférence, et je suis absolument très heureux. Moi, j'ai l'impression d'en avoir maintenant fini avec Genet. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autres colloques et d'autres sur le sujet. Non, je plaisante, mais je pense qu'on a bien fait le tour de l'animal. Pour moi, c'était vraiment passionnant. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de vous dire à tous merci d'avoir pris au sérieux cette interrogation qui était peut-être celle qui nous a fait passer du bâtard à l'orphelin. Mais pas seulement, enfin, chacun, c'est totalement subjectif tout ça, donc chacun aura ses conclusions et sa façon d'entendre tout ce qui s'est dit et qui était vraiment passionnant. Il me semble à la fin que ce soit celle qui tue, celle qui branle, celle qui écrit ou celle qui signe, que tout cela renvoie d'abord à la main, peut-être à la main de Genet, ou je ne sais pas, mais merci en tout cas à vous et voilà.
difficile de poser des questions après une conclusion, mais la porte est ouverte. N'oublions pas qu'après, il y a la visite de l'abbaye de Fontevraud et peut-être même un verre de vin blanc de Saumur avant, s'il n'y a pas trop de questions.
Oui, peut-être. Par rapport au statut du mot dans le roman, hein, puisqu'il a été question du statut du mot chez Philippe Beck, peut-être faut-il réfléchir sur le fait que dans la composition des romans, souvent ces romans sont ponctués par des mots ordinaires, des clichés usés, des métaphores usées, qui font événement dans la lecture et qui ouvrent sur des digressions qui posent un problème de lecture et qui montrent que n'importe quel mot peut faire événement, quoi. Et donc, tout comme dans un poème, un mot va être chargé de sens ou être le support d'une signification inouïe. On trouve ça chez Genet. Donc, il y a un statut du cliché ou de la métaphore usée qui est, je crois, un petit peu particulière et qui nous permet d'être attentifs, oui, à ce statut particulier du mot. Voilà, je ne sais pas si Philippe peut dire quelque chose. Ou...
Très, très brièvement, vous m'entendez? Je pense que ça, c'est vrai de la prose. Poétique, si vous voulez, mais c'est sans doute moins vrai du poème en vers. Oui, oui. C'est donc, la question, ce serait ça. Pourquoi et comment, dans le poème... notamment celui que j'ai lu de Genet, hein, il n'y a pas cette présence de la locution figée. On revient à cette question de l'originalité dans le discours poétique. On voit bien que Genet n'y renonce pas. Hein. Il y a même un aspect baroque, hein, pour dire dans son poème. Alors je sais bien que le baroque n'est pas passé par la France, mais il est passé par Genet, visiblement. Bien.
Voilà, merci à vous trois, merci à tous ceux que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici même aujourd'hui et à ceux que j'ai pu entendre. Genet ne va pas totalement disparaître puisqu'il y a encore une lecture à 19h30 probablement, puisqu'on a un peu décalé les choses, de Yves Arguet qui sera donné ici même, je pense, qui nous permettra donc d'entendre la voix de Jean Genet et avant de visiter les lieux et de boire un verre de Saumur.